On est le 1er mars 2012. Je vais vous demander de vous présenter.
Christian Lassaigne.
Alors, mettez-vous à l'aise.
Oui. Voilà. Non, parce que moi, je suis mauvais devant un micro ou devant une caméra.
Comme ça. Alors, restez comme ça.
Ouais.
Restez comme vous êtes. Alors, présentez-vous.
Alors, Christian Lassaigne, retraité viticole, exploitant à Montgueux.
Vous êtes né où et quand?
Je suis né le 3 octobre 41 à Troyes.
Et que faisaient vos parents?
Alors, mes parents étaient agriculteurs.
Où ça?
Ici, à Montgueux.
Ils étaient où?
Dans le centre du village, et auprès de l'église.
Et quelle était leur exploitation?
C'était une exploitation comme... comme aujourd'hui, mais beaucoup plus petite. Il y avait, au départ, il y avait 25 hectares. En 1960, après des locations, des achats et tout ça, il y avait à peu près une centaine d'hectares en monoculture céréalière, en particulier, avec aussi du bétail, comme à cette période-là, quoi, jusque dans les années 60. Après, le bétail a pratiquement disparu pour laisser la culture traditionnelle de céréales, comme dans la plaine champenoise, quoi.
Et il y a un petit peu de vigne pour la consommation courante, non?
Oui, comme dans toutes les fermes, oui, il y avait une petite vigne de consommation, oui.
Et vous êtes né en 41,
oui.
Votre papa était là.
Voilà, mon père a fait la guerre. Il n'a pas été fait prisonnier. Donc, pour la petite anecdote, le frère de ma mère, qui est originaire de Bretagne, enfin de Laval, son frère était prisonnier dans la ferme de mes grands-parents. Et donc, mon père a rencontré ma mère, qui venait voir son frère qui était prisonnier ici, et donc ça s'est passé comme ça, quoi. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter sur... Et c'était une ferme en location aussi, hein. C'était relativement petit, hein. Après la guerre, on travaillait encore avec les chevaux.
Et vos grands-parents étaient sur l'exploitation ou pas?
Alors, mes grands-parents n'étaient pas sur l'exploitation parce que mon grand-père est décédé début de la guerre par un accident. Il a glissé, il a passé sous une roue de charrette. Voilà.
Et votre grand-mère?
Ma grand-mère a vécu encore longtemps. Elle est décédée depuis 30 ou 40 ans. Oui.
Et vous êtes allé à l'école?
Comment?
Vous êtes allé à l'école ici?
Alors j'ai passé mon certificat d'études à Montgueux, bien sûr, oui. Et après, à 15 ans, je suis allé à l'école d'agriculture de Troyes. À ce moment-là, c'était ancienne. Maintenant, c'est l'école d'agriculture de Saint-Pange. Et avant, c'était à Troyes, où se trouve l'espace Argence. Aujourd'hui, c'était un lycée de garçons. Et donc, c'était mixte. On avait toute notre éducation générale, qui était niveau brevet, au lycée. Et la partie agricole, on avait des bâtiments à côté avec les intervenants. Mais c'était pratiquement que de la grande partie de la théorie. Mais on se déplaçait aussi pour le travail manuel à Saint-Joseph, ou enfin les écoles qu'il y avait à cette période-là, où on travaillait le fer, le bois, qu'on apprenait toutes les choses, l'électricité, enfin bref, dessin industriel, toutes ces choses-là. Ouais.
Et à l'école ici, à Montgueux, vous étiez studieux? Vous vous souvenez un peu de l'école?
Ah oui, je me souviens bien de l'école, oui. C'était relativement assez difficile parce que, étant jeune, alors pour me situer quand même sur la famille, Je suis l'aîné de 9 enfants. On était 7 garçons et 2 filles. Mon plus jeune frère a 18 ans de moins que moi, oui. Et donc, avec le travail du bétail et tout ça, on décrottait les betteraves. Avant d'aller à l'école, on allait chercher les menus paille qu'on appelait pour faire le mélange. Et donc, la particularité, c'est que, qui était bien d'ailleurs, c'est qu'on ne faisait pas nos devoirs à la maison, on les faisait à l'école. Et donc la grande partie de ce que j'ai appris était plus sur les devoirs que l'on faisait après l'école qu'à l'école. Parce que la particularité, je ne sais pas ce que vous allez prendre là-dessus, c'est que notre instituteur revenait a dû faire son service militaire dans les colonies et il avait le palu ou un truc comme ça. Et donc, l'école, c'était très difficile, quoi. Il nous poussait pas. Par contre, le soir, c'était sa femme qui nous reprenait en main et qui nous l'a appris tout ce qu'on apprend à l'école, quoi. On l'apprenait pratiquement 2 heures le soir par rapport à la durée de l'école. Enfin bon, c'est l'anecdote. C'est peut-être pas à retranscrire, mais bon, comme ça, quoi.
Et ça vous a donné, vous, entre les travaux agricoles et l'école, est-ce que, enfant, vous aviez des idées de ce que vous vouliez faire?
Bah, théoriquement, j'étais parti pour faire un agriculteur. J'ai resté dans la ferme jusqu'au service militaire. Alors, j'ai fait mon service militaire en France, je ne suis pas allé en Algérie, parce que je pouvais être exempté de service militaire étant soutien de famille, mais j'ai voulu faire mon service militaire et je suis resté en France. Et comme j'étais quand même assez volontaire, bon, ne serait-ce que déjà au départ à l'école, où beaucoup n'avaient pas leur certificat d'études parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Et puis j'ai eu la chance, moi dans ma vie j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et le maire du village était aussi président de l'association des anciens élèves de l'école d'agriculture. Donc après le certificat d'études, la première année on a fait des cours par correspondance qui me disait rien du tout. Il vient trouver mon père, il me dit, tiens, tu pourrais mettre quand même ton garçon à l'école d'agriculture. Alors mon père me dit, oh, là, il avait besoin de bras, hein, comme on dit. Et donc il me demande à moi, il me dit, oui, est-ce que tu vas. Je dis, oui, moi l'école ça me plaît. Hein. Alors donc, bon, donc je suis parti à l'école les 2 ans où ça m'a ouvert un peu l'esprit. Donc on allait visiter des fermes et tout ça, et c'était très intéressant. Et donc, continuer à travailler sur la ferme. Et après le service militaire, donc, service militaire, j'étais aussi, comment dirais-je, ça me plaisait d'aller faire mon service militaire, mais pour pouvoir éviter d'aller en Algérie, parce que je pouvais quand même y aller en faisant mon service militaire, il fallait être instructeur. Et donc au service militaire, je suis allé à Épinal dans les transmissions. J'avais tous mes permis de conduire pourtant, et donc j'ai repassé. Il y avait une section auto-école. J'ai repassé tous mes permis. Et après, je suis allé passer un brevet de moniteur d'auto-école à Toul, où j'ai bossé. J'ai eu 17,5 peut-être bien de moyenne. Et donc j'ai fait tout mon service militaire en étant moniteur d'auto-école de poids lourd, sans double pédalage comme aujourd'hui. Hein, on a eu Et donc j'étais volontaire, quoi. Et puis le gros ennui, c'est que ce période-là, comme il y avait beaucoup de sursitaires qui avaient fait. Donc moi j'avais interdiction de comment. Si on me demandait de faire l'école des sous-officiers, comme ça, c'était la fin pour moi de rester en France. Donc, niet, pardon. Et donc, il se trouvait qu'il y avait des sous-officiers qui étaient docteurs, qui étaient tout ça. Et donc, on faisait le code et tout ça, bien sûr, dans les salles, quoi. Alors, on avait un groupe de moyenne d'une trentaine de personnes, hein, Et moi, ma faiblesse, c'était un peu l'orthographe. Alors je me débrouillais, je disais un tel au tableau, pour éviter. Tu sais, quand tu fais une faute d'orthographe, et bon. Alors je me suis toujours débrouillé pour faire. Alors donc voilà un petit peu le... Alors en rentrant du service militaire, donc je me suis mis à chercher des fermes pour reprendre une ferme. Oh, j'en ai vu plein, Meusson, tiens, plusieurs places quoi. Mais c'est que le problème, c'est quand on est jeune comme ça, on n'a pas approfondi la question, c'est qu'il faut de l'argent pour reprendre une ferme. Et on n'en avait pas. Alors ben, j'ai abandonné la ferme, les soirs de la ferme, parce que bon, fallait s'endetter. Puis moi, je suis assez, même là jusqu'à maintenant, j'ai toujours été assez prudent dans l'évolution pour, ben, quand on va trop vite, des fois, une crise économique ou un truc comme ça, puis il te reste plus rien. Donc dans ma tête, après, mon père, pour pouvoir s'agrandir, avait acheté toutes les fonds de vente pendant des dizaines d'années. J'ai été voir sur le cadastre pour voir ce qu'il y avait. Je vais faire de la vigne. Hein. Donc moi, dans mes travaux, étant jeune et tout ça, c'est moi qui la faisais déjà, la vigne et tout ça. Je m'occupais plus de comment dirais-je, de petits boulots. Parce que comme on était quatre frères qui suivaient l'un derrière l'autre, là on a eu des tracteurs après, en 1950, bon, des tracteurs, et tout le monde voulait monter sur les tracteurs. Donc bon, moi je les laissais monter sur les tracteurs, et puis je faisais autre chose. Et donc de là,
Là, c'était en quelle année?
comment?
Là, c'était en quelle année?
Alors là, je suis rentré de service militaire comme en début 63, en février 63, je suis parti en juillet 60. Soit 61, je suis rentré, j'ai fait 20 mois à peu près. Et donc, sur le cadastre, il y avait 5 hectares et demi de friches en appellation Champagne. Bon, c'est parfait. Alors, je dis à mon père, bon, je vais faire la vigne. Alors, il me dit, bon, ben, mon gamin, il n'était pas tout seul. Hein, il dit, tu vas partager ça avec tes trois autres frères. Bah, oui. Donc je me suis retrouvé avec 1,5 hectare, 1,30 hectare de terrain à appellation qui se trouve ici. C'était en friche, hein, tout ça, toute la côte. Et donc j'ai commencé comme ça, mais on a eu énormément de mal parce que j'ai fait la demande de plantation en 63 et pour pouvoir planter en 64. Et comme on n'était pas professionnel, au lieu d'avoir 50 ans, on avait 10 arts à planter. Et donc, on a planté pendant 3 ans 10 arts de vigne, tant qu'on n'avait pas une déclaration de récolte. Alors, bon, alors je continuais de travailler sur la ferme. Hein, donc, on a fait des petits boulots. Puis, j'avais comment. Je me suis marié en 65. J'avais ma femme qui travaillait, donc elle m'a nourri de 65 à 70, parce que on a commencé à gagner un petit peu d'argent. En 70, on avait 1 hectare de planté. Hein. Alors donc la vie viticole a commencé comme ça, quoi. Alors les 10 premières années, avec mes frères, on était ensemble. On avait tout le matériel ensemble et on avait monté un pressoir. Et puis moi j'habitais dans une, on habitait dans une maison à Grange-l'Évêque, une petite ferme que mon père avait achetée quand j'étais au service militaire. Petite ferme de quelques dizaines d'hectares, quoi. Et donc, bah, fallait que je vienne travailler en mobylette tous les jours, parce qu'on avait une deux chevaux, c'est ma femme qui l'avait pour aller travailler. Elle travaillait en usine, mais ma femme, elle s'occupait de chez Vitoux. Elle faisait la paye avec une autre collègue des pointeuses. Alors bon, autrement, pas de problème particulier jusque-là, quoi.
Et vos frères faisaient aussi la ligne?
Alors, du coup, mes frères se sont mis à faire la vigne aussi. Et donc, le quatrième qui était au service militaire, quand nous, on avait déjà commencé de planter, c'est même nous qui avons planté ces vignes et tout ça, quoi. Parce qu'on a une petite différence, on a 4 ans d'écart, quoi. Alors, quoi, de plus?
Ensuite, comment ça se passe quand on commence à planter? Comment
Alors
vous
donc,
avez dit, vous n'êtes pas professionnel.
ouais, alors donc, comment j'ai sur le plan des gens en place pour avoir bah, des renseignements et tout ça, c'était assez dur. Les gens fermés. Il y a juste une personne, une très vieille personne, qui n'a pas été citée là-dessus, et je suis bien. Enfin, bon, ça m'ennuie, c'est pas que ça m'ennuie, mais je trouve ça anormal. Bon. Et que je lui ai expliqué, Ils faisaient déjà du champagne, et quand on avait une petite cérémonie à faire, on allait acheter une bouteille de champagne ou deux chez lui, on causait énormément. Il aimait ça, il aimait les jeunes. Et il m'a dit, ah, mon gamin, c'est bien, tu plantes dans cette partie-là, c'est le meilleur coin. Enfin bref,
C'est qui cette personne?
c'est Aristide Corniaux. Je ne reviendrai pas ce qu'il a écrit là-dessus parce que ça me.
C'est quand vous avez commencé à planter, où en était la vigne, le champagne à Mondieu?
Alors ici, bah ça avait commencé à être planté autour des années 5. Enfin, il y en avait quand même un peu. Il y avait les principaux Beaugrand, enfin quelques-uns, quoi. Mais donc j'ai eu quatre oncles qui faisaient la vigne, qui avaient planté entre les années 50, 55 jusqu'en 60, quoi. Mais comment il y avait quelques jeunes qui étaient un petit peu plus vieux que moi, bien sûr, qui avaient commencé déjà un petit peu à planter, parce qu'ici, c'était que des pratiquement des agriculteurs, mais qui avaient des terres sur l'appellation. Donc ici, on a les trois quarts des vignerons, ce sont des agriviti. Et donc, bon, comment expliquer ça? C'est que on avait du mal de les contacts et tout ça, et là, comment l'opportunité a fait que l'ancien président des vignerons, qui s'appelait Marc Brugnon, montait dans les années 60, oh, c'est dans les années 66, 7, par là, je ne me rappelle plus trop. Il faisait une réunion dans la Côte des Bars pour monter un club, comme les jeunes agriculteurs, les groupes des jeunes vignerons, que peut-être entendu parler et qui existe depuis ces années-là. Donc, il demandait des volontaires pour faire partie de l'équipe. Alors, moi, toujours être volontaire, j'étais le premier à lever la main. Alors, ça m'a ouvert aussi énormément l'esprit parce que je connaissais pas du tout le champagne, le vignoble champenois. Et puis, donc, le président, nous, quand on est rentré, on avait 20 tares de vigne, on n'avait rien. C'était par rapport aux jeunes qui avaient déjà les exploitations. Enfin bref, donc ce qui nous a donné l'idée, enfin poussé par ce président, bon, on se rencontrait les uns chez les autres et tout ça, alors quand il me dit, arrête de planter n'importe où, hein, parce que j'expliquais qu'on avait, je ne veux pas dire 50 parcelles, mais il y avait une vingtaine de parcelles qui se baladaient partout. Il se dit, tu fais des échanges. Moi, et j'ai fait des échanges pendant 15 ans sans arrêter. Et jusque, comment, il y a eu le remembrement fin 70. Et donc, j'avais 4 hectares et demi de vignes, ouais, à peu près, sur 3 parcelles. Et donc, ici, j'en avais presque 2 hectares au pied de la maison. Et là, il y a encore deux propriétaires qui n'avaient pas échangé. Je viens d'échanger avec la fille qui reprenait, où la vigne était foutue, et je lui ai redonné une bonne vigne dans le bas pour regrouper. Et donc, en fin de compte, j'ai 5 hectares et demi, et on peut aller dans les vignes à pied sans véhicule. Tout est. Alors, ici, c'était une parcelle à mon père, mais c'était des petites parcelles. On a fait aussi des échanges pour avoir l'entrée sur la route et tout ça. Puis on avait demandé un permis de construire. Qui a été validé, mais à condition qu'à cette période-là, il n'y avait pas le plan d'occupation des sols. Il fallait prendre à sa charge l'eau, l'électricité, la voirie, enfin bref, tout ça. Et donc là, on a commencé à construire la maison ici en 73.
Le remembrement, comment ça s'est passé?
Ça s'est pas trop mal passé. Comment c'est que je dirais, moi? Parce que les terres étaient par classe, et donc les plus classés, c'était ceux de la plaine. Et moi, je préférais le coteau. Donc, j'ai gagné de la surface. J'ai des vignes qui sont très dures à faire, hein. J'ai des pentes 40% gazonnées, Là, on y va avec un tracteur. Maintenant, on avait un petit tracteur interligne. Pardon. Si je vous raconte tout le truc, vous allez. Alors, vous posez des questions parce que.
Et vous avez commencé, donc, quand vous avez commencé, vous aviez une toute petite parcelle. Est-ce que. Comment était l'évolution, votre évolution par rapport à la vie, par rapport à la profession?
Bah, l'évolution a été très lente. Alors, en 71, avec mes frères, en dehors du matériel qu'on avait déjà, on s'est mis à construire un pressoir parce qu'il y avait juste un seul pressoir communal qui était chez Beaugrand, où tous les raisins étaient vendus au négoce. Il n'y avait pratiquement personne, à part Beaugrand, qui sait, qui faisait un peu de champagne, et puis mon oncle, enfin bon, mais autrement, 90% des raisins partaient dans la Marne, chez Trouillard, Henriot, enfin les. Et donc en 70, où on a eu une superbe récolte, une très grosse récolte, nous on avait à peu près un hectare, je disais, en production, et on avait fait 20 000 kilos de l'hectare. Les anciens n'avaient jamais vu ça. Et donc, il y avait du vin supplémentaire qu'on appelait à cette période-là les coteaux champenois. Enfin, maintenant, ça s'appelle. Non, c'était des vins ordinaires, des VO. Enfin, et donc, on a commencé déjà à stocker ça. Mais pour vendanger un hectare, on a mis 3 semaines. Heureusement, le temps était favorable. Parce que le pressoir, il ne suivait pas, et nous, les vignerons, la nuit, on a remplacé l'équipe de jour pour presser les raisins, parce qu'il y avait tellement des raisins partout que. Alors donc, en 71, on a monté un pressoir avec les frères, puis j'y suis resté à peu près une dizaine d'années, et après, moi, je voulais transformer le produit, puis mes frères ne voulaient pas. Bon, on avait aussi le cadre, mais c'était trop aigu. Et puis au début on était à l'imposition forfaitaire, et oui, ça c'est difficile à expliquer. C'est tant que vous ne dépassez pas un chiffre d'affaires tel, c'est un forfait sur la surface de vigne. Donc après il faut passer au bénéfice réel, enfin à l'imposition du bénéfice réel. Donc on était déjà avec les frères, on avait déjà un comptable quand même pour gérer un peu notre truc, et dit comment ça allait passer au bénéfice réel. Et comme je voulais me retirer avec mes frères pour aller un peu plus vite pour vinifier tout ça, donc il me dit la seule solution c'est de reprendre vos parts sur la société que vous avez, et puis de reconstruire. Et donc là après on a reconstruit les bâtiments, on a commencé à construire les bâtiments là. J'ai remonté un pressoir. Et quand on a commencé. Alors, en plus, j'ai eu un problème qui m'a fait évoluer. Dans l'autre sens, c'est qu'en 71, on a eu une très. Mo non, 72 peut-être. Enfin, une très mauvaise année où la vendange était très tardive avec des raisins pas mûrs. Alors ça, vous pourrez l'effacer sur. Tu peux l'effacer, non? Parce que les parties que.
Oui,
Oui,
on
non,
peut
mais
la regarder
bon, non, parce
ensemble.
qu'il y a des choses qu'il faut laisser. Et puis, on avait, à cette période-là, on n'avait pas que des chardonnays, on avait un peu de pinot noir. Et puis nous, jeunes, on commençait la vendange le jour de l'ouverture, sans prendre d'échantillons, parce que ça ne se faisait pas là. Puis, le vin, le moût ne faisait pas le degré qu'il fallait. Et donc, on venait de presser 4 000 kilos de raisins. La répression des fraudes vient, prend l'échantillon, elle dit on déclasse le bovin, ils ne font pas le degré. Paf. Alors, moi, j'étais déjà au groupe des jeunes, donc je téléphone au syndicat, je dis on fait quoi? Ben, il me dit le degré va baisser parce que toute la Champagne est pareille. Alors, il me dit est-ce que moi j'avais un peu de pinot, n'avait pas fini de. Il me dit si tu as des commandes. Des raisins qui risquent. Moi, j'avais pas commencé, hein, parce que bon, c'était toujours prudent. Et vous pouvez les mettre avec, si ça fait le degré, bon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'on fait. Le lendemain, ils reviennent, ils voient qu'on a mélangé les vins. Truc. Elle dit oui, mais le premier n'était pas bon, le deuxième n'est pas bon, tout est mauvais, enfin, on déclasse tout ça. Alors, et puis, ils n'en démordaient pas. Donc, on a été en procès pendant 2 ans avec la répression des fraudes. Et puis, la bêtise qu'on a fait, j'ai pris le même avocat que. Alors, donc, oui, je fais un peu vite. C'est qu'on a, comme il faisait le degré, ils nous ont dit, vous pouvez expédier les vins chez le négociant. Et eux, la répression des fraudes, ils ont continué la procédure. Donc ça a duré 2 ans, j'ai passé au tribunal, comme un voleur. Et donc, on avait pris le même avocat, ici à Troyes, que le courtier. Puis en fin de compte, ils nous ont il y avait l'INAO qui était représenté et tout ça, bon, et ils nous ont écrasé. Si on peut dire. Donc, en décision, on envoie les vins à la distillerie. Mais les vins, 2 ans après, ou 3 ans, je ne sais plus, ils étaient chez le négociant. Alors, celui qui me représentait du syndicat, l'ancien secrétaire général, il me dit, demain matin, tu montes à Épernay, tu viens au syndicat. J'aurais réservé un huissier et on va prendre des échantillons avant que ça parte à la distillerie chez le négociant. Alors on déboule chez le négociant, c'est que je dis bon, ben, on vient voir les vins qui vont être menés à la distillerie. Voir. Et donc, il nous donne une cuve à prendre les échantillons, enfin à l'huissier. Et donc, l'huissier envoie ses échantillons au laboratoire officiel à Reims qui a. Le laboratoire a prouvé que ça ne pouvait pas être le vin qui correspondait à ce qu'il pouvait. Et donc de là, on repart chez le négociant, on lui explique le truc, on dit, eh bon, si vous ne nous payez pas, nous, on fait marcher la procédure. J'ai pas eu du... Il a sorti le chèque, le carnet de chèque, et il nous a payé nos trucs qui partaient à la distillerie. Non, mais... Et donc de là, si tu veux, c'est que ça forge un petit peu l'esprit de volontariat et tout ça, quoi. Et donc ma vie après a été que j'ai fait partie des instances qui m'intéressaient. Bon, c'est vrai que j'étais souvent parti, mais ma femme m'a beaucoup aidé.
Mais quand on voit ce genre de choses, on se demande où on met les pieds.
Oui, parce que quand on manque beaucoup de maturité dans les trucs de la loi, des réglementations, tous ces trucs où on ignore totalement, on est complètement déphasé, quoi. Et si j'avais pas été commencé par exemple de rentrer dans le groupe des jeunes, comment j'aurais pu me sortir de ça? On perdait pratiquement la moitié de ce qu'on avait pu récolter, quoi. 2 ans après, quoi, ça leur a foutu une... Bon, c'est...
Et par rapport à l'idée que vous aviez de la vigne, du
Oui.
champagne, comment est-ce que vous pouviez vous projeter au moment où vous avez décidé de faire de la vigne?
Alors donc, après cette histoire, je ne voulais plus vendre au négoce. Donc, on n'avait pas beaucoup de caves et tout ça, et donc moi, président des jeunes, alors, qui était président après des vignerons, il me dit tu sais pas vinifier, rien du tout. Ça, oui, pardon, faut me rappeler. Et il me dit, moi, je te fais rentrer à la CRVC à Reims. C'était à quelques semaines des vendanges, même pas. Hein, parce que à cette période-là, donc en plus, le courtier, c'était Schnetter, l'ancien maire de Reims. Et on ne l'a jamais vu. Alors lui, il est payé, parce qu'il y avait des répartitions, il nous a amené les bons comme quoi on avait tant de kilos à livrer aux négociants. Et je dis, moi, je ne veux plus entendre parler du négoce. Alors donc, j'ai mis mes raisins à la coopérative à Reims. Et donc de là, comme ils vinifiaient et tout ça, on a commencé à développer la vente, quoi. Donc on reprenait nos bouteilles terminées, juste à coller l'étiquette, comme il y a beaucoup qui font, quoi. Et quand on a eu les premiers clients, c'est qu'il y en avait 2 sur 3 qui venaient pas acheter le type de champagne que j'avais. Ils venaient acheter du blanc de blanc parce que c'était déjà la particularité du chardonnay. Ah, j'ai dit, bon, bah, là, il faut qu'on fasse quelque chose, là. Et comme à la coopérative, ils ne faisaient que des vins d'assemblage, ils ne faisaient pas des cuvées de blanc de blanc. J'ai dit, il faut qu'on investisse. Et donc, après, on a reconstruit la cave. Et puis alors, donc, j'ai appris à vinifier avec l'œnologue. J'avais déjà commencé à apprendre un petit peu dès le début. On gardait toujours ce qu'on appelle une pièce de vin pour nous, et donc il nous apprenait à maîtriser les levures, enfin tous ces trucs-là. Donc j'ai appris le métier de vinificateur, enfin ou de mise en bouteille, j'ai tout appris sur le tas, quoi. Ben, enfin, c'est plus le même qu'elle est là, c'est l'Institut œnologique de Bar-sur-Seine, quoi. Je me rappelle plus de son nom, c'était un petit jeune qui était très bien. Et donc de là, ben, on a continué à vinifier un petit peu là. Alors donc après, il a fallu agrandir les caves. Donc on l'a construit ici, mais ici c'est encore une autre histoire, quoi.
Et là, pendant quelques années, là.
Alors là, on est dans les années comme en 80, quoi. Là, on a commencé à mettre des raisins en 73 à la coopérative. Oui, parce que ça nous était arrivé en 72. Donc, on n'avait pas encore passé le procès et tout ça, mais je n'aurais pu entendre parler du négoce. Et donc, on a reconstruit les bâtiments. On a commencé pour agrandir, quoi. Et au début, on avait commencé à vinifier 1 hectare et puis après ça s'est avéré qu'il fallait. Alors donc on est. L'ennui ici, c'est que c'est pas fonctionnel, c'est qu'on a fait que des petits bouts à la fois. Et donc c'est venu comme ça. Alors après, la particularité, c'est que pourquoi on a construit ça et tout ça, c'est. Au début, avant de. Non, c'est que là, après, je mettais les raisins à la coopérative. Ils trouvaient mes raisins tellement bons qu'ils voulaient que je trouve des hectares sur mon gueux. Donc, il y avait des gens qui ne voulaient plus trop aller, puis qui voulaient faire un peu comme nous, avoir des bouteilles à reprendre et tout ça. Donc, j'ai trouvé 1 dizaine d'hectares d'agriviti qui sont. Qui, alors, moi, j'avais un tout petit pressoir traditionnel de 2000 kilos. Donc, la coopérative m'a aidé financièrement pour réinstaller. On avait installé au début un 4000 kilos Vasselin qu'on n'a pas gardé longtemps parce que d'occasion, parce que ça faisait pas du bon truc. Et donc, là, on a un gros pressoir de 8000 kilos pour. On a un petit peu moins d'apporteurs parce qu'ils ont arrêté leur contrat, mais. On livre 1 dizaine d'hectares à la coopérative sur Montgueux avec une partie des nôtres, quoi, parce qu'on en livre encore. On transforme ici et on transforme toujours à la coopérative. Et donc, ici, sur Troyes, ils commençaient un petit peu, dans les années 75, à développer le tourisme. Du temps de Robert Gallet, qui était ministre de l'équipement. Parce qu'en 75, nous, ici, on a créé, je suis un des membres fondateurs, mais on a créé toutes les réunions se sont passées là. C'est la photo que vous avez derrière, la commanderie du Saultbouchon, avec 4 ou 5 personnes de la Côte des Bars. Mais ça s'est passé ici parce qu'on a fait le premier chapitre. Alors donc, on a créé les costumes et tout ça. Bon, ici, les médailles, tout le bazar. Moi, j'ai un propriétaire ici qui nous a loué 1,5 hectare de terre d'appellation, qui était le docteur Sonrier. C'est un ancien, c'est lui qui m'a mis au monde. Hein, il était accoucheur, enfin. Et donc, parce que sa femme était originaire de Bourgogne, ils avaient des vignes en Bourgogne. Et ici, ils avaient un grand terrain qui était clos. La petite cabane que tu montres là, c'est à eux aussi, c'était clos. On a tout foutu en l'air. Et donc, lui, il était conseiller municipal à Troyes. Et Ben, il était aussi comment administrateur ou comment à la chambre d'agriculture parce qu'il s'occupait des trucs de forêt. Enfin bon. Et donc c'est lui qui nous a fait entrer ben, la mairie de Troyes. Et comment dirais-je, oui, en 75, Robert Gallet dit, il faudra nous faire quelque chose sur Mongueux, tout ça. Alors donc, comment, quand il y avait des jumelages à Troyes et tout ça, ils venaient déjà chez nous, mais on les recevait à la maison. Parce qu'on n'avait pas de bâtiment au départ. Alors, bon, ben, je dis, comment, je vois le maire, qui était un jeune, c'était juste avant le début du remembrement, c'était en 75, 75-76. Robert Gallet, vous nous trouvez un terrain bien exposé comme ici, et on s'occupe de tout, vous restez propriétaire du terrain, enfin la commune, donc je dis ça au maire et tout ça. Donc c'était le remembrement, il me dit, tiens, bah, au remembrement, tu t'occupes de regrouper les terres qu'il y a de la commune, donc faire réserver 3 hectares et demi, je crois, là, où c'est qu'il y a la balise en haut, là, sur un point de vie, il y avait l'eau qui montait, l'électricité, il y avait tout ça, comment dirais-je, donc, monte le dossier, et puis le maire présente ça au conseil municipal, et le conseil municipal, et on dit, on n'a pas besoin des autres pour s'occuper de nos affaires. Blanc. Alors tout ce que j'avais fait, c'était. Alors donc, Robert Sonrier et puis Robert Gallet, ils étaient furieux. Alors Sonrier avait un frère qui était architecte, qui est. Son genre, c'est Péfer, ou Péfer, un truc, non comme ça, enfin qui. Il me dit. Tu vas faire ça, ici tu as de la place, on va te dire à mon frère, il va s'occuper de ça et tu vas construire ici. Tu vois. Et donc son frère m'a fait des plans, il m'a jamais demandé un sou. Hein, et puis bon, nous on a fait ça pas nous-mêmes, on a battu des chaînes. Bon. Et donc c'est venu comme ça, il dit bon, s'ils veulent pas profiter de l'évolution du champagne et tout ça, toi profites-en et puis. Et donc, on a travaillé avec l'office de tourisme pendant 15 ans et on a reçu, avec les agences de voyage un petit peu de partout, des gens qui se déplaçaient et ça leur faisait une halte. Et donc, bon, c'était très prenant parce que moi qui cause un peu beaucoup, je leur faisais visiter la cave et tout ça. Puis, donc, il y a des fois, une paire de fois, on a eu deux bus ensemble. Hein. Alors, avec ma femme, pas cette fille-là ou l'autre fille, bon, tout. Mais ça. Puis bon, depuis qu'on voulait un petit peu. Parce que 15 ans à faire ça, c'est usant. Hein, ça. Alors, on a fait un CD. J'ai les filles, on a un compte écran, on a tout ça, mais. Les filles ne veulent pas s'embêter avec ça non plus. Enfin, bon. Donc l'évolution est venue comme ça, mais un petit peu forcée par les autres, quoi. À chaque coup, tu vois, bon, ça s'est passé comme ça, quoi. Alors, bon, comment ça que je dirais? Je peux m'étendre sur le restant de ma carrière de responsabilité, mais bon, après, c'est vous qui voyez.
Oui.
Alors donc, du groupe des jeunes, je suis passé administrateur au syndicat pendant 25 ans. J'ai arrêté il y a 10 ans, quoi, 60 ans. Et par obligation, j'étais aussi administrateur à l'école de Saint-Pange. Donc, on avait des réunions de commission aussi au syndicat. Bon, on a deux. On est obligé de prendre deux commissions. Bon, moi, j'avais pris justement la commission technique parce que j'étais très intéressé sur la technique. Hein, et puis, bon, j'avais pris une autre commission affaires intérieures, mais qui n'était pas très, très prenante. Et comment dirais-je, de là, bon, bah, ça, comment. On voit ce qu'est l'économie champenoise, on voit que bon, c'est vraiment quelque chose de prenant, quoi. Et ce qui était bien, donc, à rencontrer Yves Joly et tout ça, donc j'étais avec Yves Joly, mais j'étais aussi. Bon, il y a comment. Michel Drapier maintenant, mais il y a eu son père. Moi, j'étais du temps de son père et j'étais du temps de Pierre Gillet, le père à, comment, à celui qui s'occupe de chez Deveau, quoi. Alors, donc, j'ai vu un certain nombre de personnalités et l'avantage, la mentalité de l'eau, c'est que quand il y avait des grandes décisions à prendre, parce qu'il y a du temps, après Marc Brugnon a passé aussi président de la Vigneron, il est resté 17 ans, donc il a pris beaucoup de décisions hein, très importantes dans la qualité du champagne, le pressurage à 160 kilos au lieu de 150, le vieillissement des bouteilles de 3 mois de plus, enfin bref, les rebêches obligatoires, enfin on a pris un tas de. Et donc avec les 6 autres, oui, on devait être 7 à cette période-là, entre 6 ou 7. On se réunissait la veille et on votait tous dans le même sens. Et donc, je me suis fait. Alors, l'avantage qu'il y a par rapport aux administrateurs d'aujourd'hui, que je represse un peu, aux syndicats, c'est qu'on avait le. Comment. Ce qu'on peut appeler le droit de réserve. C'est-à-dire que comment. Tout ce qui était discuté au syndicat, qui était reporté aux commissions consultatives avec le syndicat des négoces, au CIVC, n'étaient pas des choses acquises. Et on devait garder ça sur nous, pour nous, tant que la décision n'est pas prise. Parce qu'aujourd'hui, ben, on raconte des trucs et puis le lendemain c'est effacé parce que ce soit les taux d'appellation ou autre, le négociant n'est pas d'accord et puis bon, ça. Et donc, je trouvais que c'était une relative bonne chose. Et donc, avec les administrateurs, pour dire que moi, j'étais dans une commune où j'étais plus en rapport avec la Côte des Blancs. Alors, la Côte des Blancs, au syndicat, c'était infernal, hein, parce qu'il y avait eux les plus beaux, bon, avec pour eux. Mais j'ai voté des décisions, en grande partie, qui étaient contre les intérêts. Alors, quand on est dans des trucs comme ça, on doit occulter toutes les commandes sur le plan professionnel ou comment restreint ou de la commune et tout ça. On vote pour une région, on vote pour une région. Donc, moi, je votais pour les intérêts de la région, mais qui étaient pour la Côte des Barres, qui étaient contre la nôtre. Alors, garantie que des fois, parce qu'on avait fait quand même des réunions locales. Et où ça coince un peu, quoi, parce que, alors je disais, moi, c'est comme ça, des intérêts personnels, et à contrario, c'est ce que me reproche un petit peu ma femme aujourd'hui, c'est que pour éviter qu'on dise, tu as profité de tes situations, on était à la commission SAFER, une commission SAFER de l'Aube, où on épluchait tous les dossiers pour les préemptions, les trucs comme ça. Donc, moi, je suis allé assez souvent parce que j'étais au pied de proue pour défendre les. Et donc, ici, la moitié des vignerons qui ont des vignes, à Issoire, partout. Et donc, moi, j'ai jamais voulu, j'aurais pu m'agrandir, en plus, préempter pour, dire, je voulais pas qu'on dise un jour, tu as profité des dossiers que tu avais là pour agrandir ta. Alors moi, de ce côté-là, je suis clean. Rien à se reprocher. Et donc, bon, voilà déjà un petit peu l'historique du syndicat. Et de là, après, comment. Oui, il y a une paire d'années que j'étais au syndicat, on a demandé que je rentre au conseil d'administration de la CRVC. J'y suis resté aussi une vingtaine d'années, où là, c'était une autre. Comment. Une autre façon de gérer, comment dirais-je moi, l'économie champenoise, puisque le syndicat, l'interprofession, c'est l'économie en général. Là, c'est comme une maison, c'est un peu comme la nôtre. Bon, c'est un petit peu différent, mais c'était très motivant parce qu'on a comment, on avait beaucoup de formations, au syndicat aussi d'ailleurs, parce qu'au syndicat, c'était assez lourd, il fallait se remettre en question sans arrêt. Et donc, moi, j'étais un de ceux qui avaient fait le mois d'études. Alors, c'était. Ah, pour donner une aparté, c'est qu'on a fait un stage une année qui s'appelait Convergence, qui a duré un an, on a eu 4 sessions, et qui se passait à l'abbaye de. Roi-Aumont, c'était bien en région parisienne, enfin, truc. Et donc, sur l'aube, il y avait Yves Joly, Michel Drapier et moi. Ben, j'ai trouvé, enfin bon, j'étais pas de ceux qui. Mais j'ai trouvé ça relativement dur parce que c'était très prenant. Puis très, on en a pris plein. Je vais être un petit peu grossier, plein la gueule. Ben parce que les gens, il y avait trois comment. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est que ces sessions-là avaient été faites pour les responsables de Crédit Agricole et tout ça. Et donc, Marc Brugnon y avait déjà été. Il a dit, faut vous mettre ça dedans parce que là, ça, c'est hard, c'est vraiment, vraiment pointu. Donc, il y avait trois personnes qui nous faisaient. Alors, c'était comment gérer son temps par rapport à sa vie enfin, familiale, professionnelle. Et comment, obligation, enfin les autres obligations, quoi, ou que ce soit dans une mairie, moi j'ai rien pris à la mairie et tout ça, mais bon, il y en a qui avaient plusieurs casquettes comme ça, tu cours partout, et puis ton exploitation, et c'est vrai, il y a certains vignerons où l'exploitation n'était pas quand même au top, hein, parce que, alors moi j'ai jamais voulu ça, moi j'ai toujours été. L'exploitation, c'était sacré, mais j'ai pas loupé de réunion pour autant. Hein. Je travaillais le dimanche, je travaillais le soir, je travaillais. Bon.
Et à mon goût, on n'est pas un peu isolé, hein, par rapport au reste de la Champagne ou de l'Aube.
Ah oui, on est isolé, on a automatiquement, bah, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est que on n'a pas le même terroir, on n'a pas le même climat. On n'a pas le même cépage, tout ça c'est complètement différent, quoi. Ça ressemble à la Côte des Blancs ou à la limite un peu aux Cézanais, quoi. Mais sur le plan mentalité des gens qui ici, non, l'ennui des gens ici, bon, ça, je suis obligé d'être méchant un petit peu, c'est qu'ils ne veulent pas dépenser un sou. Ça être sûr que ça va rapporter quelque chose, quoi. Alors, c'est la mentalité, elle est en retard de 10 ans, quoi. Bon, aujourd'hui, il y a certains jeunes, plus jeunes, qui commencent à se réveiller. Alors, en disant, ben, des gars comme moi, notre génération, vous avez rien fait, quoi. Ah oui, je dis, hein, on peut pas en faire si personne n'est d'accord. Hein.
Et vous parlez d'agriculture. Est-ce que sur mon lieu, on peut parler d'agriculteur, de vigneron, ou c'est difficile?
La mentalité, elle est. Bon, alors, tous ceux qui font que de la vigne, parce qu'il y en a, bon, où les grands-parents étaient agriculteurs, et puis comme moi, nous, sur les quatre frères, il y en a un qui a repris la ferme. Donc, il fait pas de champagne, rien du tout, ils vendent ses raisins comme la plupart qui font ici, quoi. Et il y a quand même l'agriculteur, en grande moyenne, il produit ses raisins comme il produit ses betteraves à sucre ou les trucs comme ça, quoi. Ça se promène avec des tonnes d'engrais, des trucs, c'est. Donc, ça traite, ça les comment, l'écologie ou la pollution, je connais pas, quoi. Moi, ça me. Ça, c'est un autre esprit, là. Ça, je ne veux pas m'étendre là-dessus. On viendra peut-être après.
Oui, mais par rapport justement, par rapport à l'identité de Mongueux, est-ce qu'on se sent vigneron à Mongueux ou pas? Ou plutôt agriculteur?
Ah, c'est difficile à cerner. Hein. Je pense que. Comment c'est que je pourrais dire, moi, dans l'esprit, les gens se disent plutôt viticulteurs, dans le sens où c'est plus imagé qu'agricole, d'une part. Et bien souvent, les agriculteurs sont, bon, en général, sont tous suréquipés, comme, bon, plus qu'en Viti, hein. Bon, il y en a aussi en Viti, mais c'est la partie viticole qui leur fait acheter du matériel agricole, quoi. Ah bon, c'est comme ça, quoi.
Et pour vous, est-ce qu'il y a eu un moment où justement l'essor du champagne, le prix des parcelles, le prix au kilo, a fait qu'il y a eu un basculement où tout ce qui est vigne était plus important que ce qui était agriculture.
Ben, oui, tous ceux qui avaient des terres, ils les ont tous plantés, hein. Ils ont des surfaces plus ou moins grandes.
Est-ce qu'il y a eu un moment?
Comment?
Est-ce qu'il y a eu un moment de basculement?
Il y a eu automatiquement un moment de basculement, mais qui était peut-être un petit peu plus long que le vigneron classique, qui a des fois moins de terres et tout ça, où il faut qu'ils foncent trouver des terres, enfin, pour planter. C'est mitigé, si on veut, dans l'ensemble des gens. Hein. Il y en a qui étaient très virulents, et puis d'autres qui étaient un peu comme Quinfin ou autres, qui avançaient. Mais dans la période de chez nous, c'est que, comment, ben on était comment. Il y a des Marnais qui sont venus prendre une exploitation en 1950. Donc c'était une personne de la Côte des Blancs et qui avait pas mal d'argent et tout ça. Et puis à cette époque-là, même nous quand on était encore là, c'est qu'ils ont toujours acheté les vignes et tout ça. Nous on n'a jamais pu acheter une vigne hein, parce que c'était. Et donc il en a acquéri une quarantaine d'hectares sur 200. Et donc les paysans surtout de Torvilliers et tout ça, qui n'étaient pas intéressés au départ de planter des vignes parce que bon, ils n'étaient pas professionnels aussi, c'est un peu comme nous, ils ont loué ou vendu leur terre au Marnais. Donc c'est ce qui a fait un petit peu la dureté de trouver des parcelles. Et donc ici, encore quelques Marnais qui sont venus. Les derniers, derniers les, la plus, à part quelques vignerons où les héritiers ont vendu un petit peu de parcelles de vignes à des gens du pays qui connaissaient autrement, quand c'est surtout. Quelques personnes de l'extérieur qui avaient des vignes ou qui pouvaient les reprendre pour les vendre après le bail et tout ça, c'est les Marnais qui sont venus les acheter, quoi, parce que c'était des prix au-dessus de nos moyens, quoi.
Vous n'avez pas pu agrandir comme vous vouliez l'exploitation.
Alors, c'est un petit peu pour ça, dans l'esprit, dès le début, on a vu que c'était impossible de comment. Par exemple, bon, ici, il y a eu deux personnes qui ont vendu des vignes. Donc, mon voisin d'en face, l'autre côté, qui est Valton, les anciens propriétaires de Petit Bateau, qui, quand il a pris sa retraite, le père, le garçon, il a mon âge. Non, c'était Étienne Valdon. Ouais. Non, le fils qui reste, il est là, qui est là, il s'appelle Étienne aussi, son prénom. Et donc, bon, ça peut rester encore entre nous, mais donc, ils avaient du personnel dans la propriété, là. Donc, il y a toujours la propriété où qui est clos, qui a encore 1,5 hectare de vignes dedans. Et donc, il avait, vous voyez, où c'est qu'il y a la petite cabane, là, ici en haut. C'était à eux, la vigne, là, ils avaient les terrains, là. Et donc, il a vendu toutes les vignes extérieures. Il y en avait aussi. Et c'était vendu en 70. Et donc, ça a été poussé par les Marnais et tout ça. Donc, ça a été vendu déjà à cette époque-là. Enfin, pas en euros, c'était 1 million de francs en 70. Mais enfin, nous, en 70, on commençait à cueillir nos premiers raisins. Alors donc, on avait un terrain. Et donc, ça s'est toujours passé comme ça, qu'à chaque fois, les dernières vignes, là, c'est d'autres vignerons de la Marne, ce sont des vieux garçons qui avaient ça, là. Ça a été vendu. Je ne sais plus quel prix, mais bon, à 5-6 ans, ça a été vendu peut-être, je sais pas, 700 000 euros l'hectare, un truc comme ça. Mais de toute manière, au notaire, ce n'était pas la peine d'aller, parce que. Et donc, à mon goût, ça a toujours été comme ça. Alors, tous ceux qui avaient, les agriculteurs qui avaient énormément de terre, bah, ça allait bien, tandis que nous. Alors moi j'ai fait comme mon père, j'ai acheté que des trucs pas chers, quoi. Enfin, pas chers. En les payant suffisamment cher pour que les vents se mettent à les vendre, quoi. Mais... Et donc, comme on a vu que c'était impossible d'acheter une vigne ou autre pour augmenter la plus-value, quoi, le chiffre d'affaires, c'était de transformer. Hein. C'est sûr que beaucoup moins maintenant, mais au début, on avait pratiquement, par rapport à vendre son kilo de raisin, il y avait le travail, bien sûr, le coût des investissements, mais la moitié en plus du chiffre d'affaires, quoi. Et sur une exploitation comme ça de 5 hectares et demi, bon, les trois vivent dessus avec un nouveau, plus un ouvrier, donc on est quatre, on vit bien, mais faut être raisonnable, et puis il faut produire à pas cher, donc faut travailler. Et aujourd'hui, moi, on s'en sort encore davantage, et bien j'ai arrivé à diminuer là depuis une dizaine d'années la moitié du coût de ce qu'on peut appeler des intrants, c'est-à-dire tout ce qui sert à faire pousser la vigne. Parce qu'on parle de diminuer les produits phytosanitaires et tout ça, moi ça fait déjà presque 10 ans que c'est déjà en route, quoi. Plus l'enherbement que j'étais le premier en Champagne à mettre l'enherbement en 1980, j'étais le premier à changer l'écartement des vignes, j'ai des vignes à 1,50 m de large, j'ai fait des essais sur plein de trucs, j'ai fait que ça. La passion, c'était ça. Bon, mais il y a. Alors pourquoi, en plus? Ça vient pas tout seul. C'est que, j'ai beaucoup voyagé ça, de ce côté-là, mais parce que, que ce soit la coopérative ou syndicat ou autre, on avait des indemnités kilométriques, mais on ne voulait pas prendre d'indemnités journalières, qui étaient imposables. Donc, tous les ans, on nous offrait un voyage d'études. Et donc, on connaît toute l'Europe, tout ça. Puis, moi, j'étais aussi administrateur au centre de gestion de Champagne, ici, là, pendant, pareil, une vingtaine d'années. Et donc, on fait toujours les voyages d'études aussi, à Grivity, qui nous a fait découvrir une grande partie du monde. Dans les continents, il n'y a que l'Australie où on n'a pas été, autrement, on connaît l'Asie, enfin, nous, on connaît le Japon, Oh tiens, oui, la Thaïlande, autrement, bon, tous les pays, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Brésil, Afrique du Sud, tout ça, puis l'Europe, on a. Bon. Et donc, au début, on a commencé à s'apercevoir que dans certains vignobles de l'Europe, il y avait déjà de l'herbe dans les vignes. Et ce qui m'a mis, quand on a planté la première parcelle qui était raide comme ça, que le technicien me dit oui, il faut qu'on essaye ça pour éviter l'érosion, quoi. Puis donc on a planté plus large parce qu'il fallait passer avec un petit tracteur, on n'avait pas de tracteur qui le permettait. Donc, techniquement, on a trouvé qu'il y avait des facteurs positifs sur la qualité du raisin. Donc nous, on fait des grandes parties du bon raisin parce que on ne met pas plus ce qu'il faut dans la vigne. On met pratiquement rien d'ailleurs. C'est l'herbe qui nourrit la vigne. Alors bon, non. Alors donc, on travaille quand même avec un technicien là. Avant, on travaillait avec le technicien de la chambre d'agriculture, mais c'était pas assez poussé. Donc on a un technicien depuis. Une bonne quinzaine d'années là de Reims qui est Viticoncept, enfin, mais qui était spécialisé dans la vie des sols. Alors moi, s'il y avait une chose que je connaissais pas ou mal, c'était la vie des sols. Alors maintenant, je sais ce que c'est que la vie des sols. Il y a les bio et tout ça qui sont obligés un petit peu de s'y intéresser, mais nous aussi en viticulture raisonnée ou en viticulture durable, on appelle en On est obligé de savoir. Alors donc nous, on travaille un peu, comment dirais-je, comme les agriculteurs. Un technicien, il passe partout, il compte les bourgeons, il vérifie un petit peu la tranquillité, parce que bon, je suis quand même un peu en retraite, je suis pas toujours là. Il passe toutes les semaines pour regarder les ravageurs et tout ça. Et en plus, il fait ce qu'on appelle le N-tester, C'est-à-dire, toutes les semaines, ils regardent la vigueur de la vigne par rapport à l'azote qu'elle a dans les feuilles. Enfin, bon, les céréaliers font tout ça aussi hein, maintenant. Et en plus, on prélève avant la maturité du raisin par. Alors les parcelles, nous, ils sont guidés parcelle par parcelle. Hein. On ne fait pas les mêmes choses dans les. Alors c'est très contraignant parce qu'on ne veut pas les mêmes produits. Et donc on prélève une bonne poignée de queue de feuilles. C'est analysé dans un laboratoire spécialisé. Ça nous dit tous les éléments ou oligo-éléments que la vigne a eu trop ou pas assez. Et on corrige l'année d'après avec des produits sur les feuilles. S'il manque, alors on ne met plus de séquestrate pour ça, qu'on met plus des trucs au sol pour éviter la chlorose et tout ça. On traite que sur les feuilles s'il manque du bore, du manganèse, enfin les micro. Alors, les techniciens, ça fait rire quand il a commencé à venir travailler avec moi, qu'on discute comme ça entre les deux, c'est que, m'a dit déjà au départ, il faut considérer la vigne comme une personne. C'est-à-dire, une personne peut être bien en santé, si on peut dire, c'est qu'il faut être nourri correctement, mais surtout un peu moins qu'un peu de trop. Et la vigne, c'est pareil. Elle résistera mieux aux maladies et tout ça, que tu es obligé de résister, enfin bref, que si on la nourrit, la force et tout ça, ben, c'est comme une personne obèse, après vous avez du diabète, vous avez tout là. Bon. Là, il m'a dit, la vigne, c'est comme une personne. Si vous lui donnez tout ce qu'il lui faut, mais surtout un peu moins qu'un peu de trop, il n'y aura aucun problème. Alors, c'est bon, que tu vas commencer le dialogue en versant comme ça, ah, là, il y a quelque chose qui se passe. Hein. C'est vrai que, bon, ben, et c'est très bien, parce que toi, moi, je. Oui, les bio, mais un jour, on s'y mettra peut-être à faire du bio, parce qu'on est presque arrivé au bio, mais le problème, ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'on est obligé de désherber sous les rangs pour éviter l'érosion. Dans les vignes, et on a des, comment, pour le moment, on a des intercepts qui peuvent passer dessous, mais l'ennui, c'est qu'on fait un petit peu de terre. Alors, voilà, l'inconvénient par rapport à la vigne de la Côte des Bars, c'est qu'on rogne beaucoup plus haut. Et ce qui donne, quand il vient un orage qui colle contre les feuilles, ça ruisselle. Alors, on a fait des essais. Et puis, l'ennui des intercès aujourd'hui, c'est que, comme nous, on a des petits silex et tout ça, c'est que ça ramène de la terre sur le gazon et la tondeuse, alors c'est moi qui fais ça, qui tond, la lame, au bout de tous les. Il faut passer le truc, et puis elle fait pas un an. Hein, alors, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de rapporter de la terre sur le gazon, bah, pour moi, ça va pas, quoi. Alors bon, j'en arrête là.
Et donc dans les années 80, il y a eu un basculement au niveau du prix des parcelles notamment, et des valeurs accordées au champagne. Est-ce que cet essor assez soudain fait pas un peu tourner la tête ou on ne se pose pas des questions par rapport à la valeur des choses?
Oui,
D'autant
alors.
plus que vous avez été agriculteur, vos parents aussi, et un travail assez important rapportait pas autant.
Non, c'est vrai, mais enfin bon, l'évolution du prix des terres, même un petit peu en agricole, en fin de compte, qui revient presque pareil, c'est que les terres de vigne, l'aire d'appellation implantée se rétrécissait. Donc, il n'y avait plus de terre à acheter pratiquement. Donc, pour s'agrandir, il fallait acheter des vignes. Et donc, il y avait plus de demandes que d'offres pratiquement. Et puis, bon, ceux qui avaient des. Alors aujourd'hui, le problème, c'est ceux qui achètent très cher, en particulier, ce sont les négociants qui veulent avoir de l'approvisionnement. Et puis, bon, mais autrement, les vignerons achètent aussi à ce prix-là, parce qu'ils veulent s'agrandir, mais celui qui a une exploitation de assez confortable et qui a de l'argent de côté, qui n'a pas besoin d'emprunter. Bon, c'est cher, mais pour rembourser, il faut 25 ans. Mais bon, s'il y a des repreneurs, des enfants et tout ça, c'est un capital qui est là. Mais si, comme nous, on a pu s'installer, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, les enfants, s'il n'y avait pas eu ce qu'il y a là, ils sont incapables de monter une exploitation comme nous, on a monté. C'est impossible. Parce que comment vous empruntez la totalité à 1 million d'euros, 1 million d'euros l'hectare, vous travaillez 25 ans pour rembourser le crédit agricole. Hein, bon, alors, en fin de compte, ce sont que des prix de spéculation.
Mais ça joue sur la transmission.
Ah, ça joue. Ah ben non, c'est ce que j'allais venir, oui. Ça joue sur la transmission. Hein. Nous, il y a 3 ans qu'on vient de donner la totalité aux filles, c'est sûr qu'on avait attendu, mais il fallait que je fasse ça avant 70 ans, donc on avait attendu que les plafonds remontent un peu, on a pris le bon créneau, Sarkozy avait remonté les plafonds et tout ça pour minimiser le coût, et on n'a pas tout donné, hein, parce que comme on a 1,5 hectare en terre de location, on n'en a 4 hectares à nous, donc. Bon, on a divisé par deux parce qu'il y a deux filles. Hein, on n'a pas donné les maisons et tout ça pour redonner plus tard, quoi. Mais c'est vrai que c'est un des principaux problèmes du prix, c'est la transmission. Parce que le reste, chacun. C'est vrai que celui qui va acheter puis qui n'a pas les moyens, c'est pas possible. Hein, mais autrement, c'est tout. Hein, les gens qui achètent, ils achètent. Hein. C'est un handicap pour les autres. Il y a deux handicaps. Hein. C'est la transmission de patrimoine plus celui qui veut s'agrandir et qui n'a pas les moyens. Ça, c'est vrai. Mais quoi faire là-dessus? Moi, j'ai pas de réponse. Hein.
Et aujourd'hui, on parle, enfin, depuis quelques années, de nouvelles parcelles d'appellation.
Oui. Ah ben, la mise en place de. Du nouveau périmètre d'appellation. Donc ici, on est très concerné parce qu'il y a un certain nombre de villages qui sont concernés. Mais bon, tout est lié avec ce qu'on appelle les droits de plantation. Je ne vais pas refaire l'histoire. Hein, je pense que le dossier va peut-être continuer malgré ça. Mais tant qu'on ne sera pas sûr de maîtriser les droits de plantation, c'est pas la peine de continuer à étendre l'appellation, hein, parce que là, ce sera l'anarchie, ce sera. Parce que ce qui était bien pendant les 40 ans qu'on vient de passer, c'est qu'il y avait justement, avec une des décisions avec Marc Brugnon, c'est que pour donner un exemple, autour des années 70, où il y avait une grande expansion, on était obligé de prendre une décision de savoir si on avait comme exemple le Bordelais qui plantait énormément, si on gardait une option agricole comme on a aujourd'hui, ou si on prenait une option industrielle. Donc, évidemment, on a tous voté pour l'option agricole ce qui obligeait à n'avoir une expansion que par rapport d'une montée régulière des ventes, et on avait décidé de ne pas planter plus de 2% de la surface par an. C'est pour ça que en 60, il y avait, je sais pas, en 60, il y avait peut-être 15 000 hectares, même pas, je ne sais plus exactement, pour arriver à 60, à 30, 33 000 hectares, 32 000, je ne sais plus combien il y a. Et donc ça a été relativement bien planifié. À chaque crise, les plantations ont été arrêtées une année, suivant les crises. Donc la crise de 92, s'était arrêté pratiquement jusqu'en 98, donc qui fait que, puisqu'il n'y avait plus d'expansion, pourquoi continuer à planter? Donc ça a été bien géré, et c'est ce qui garde l'économie champenoise telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc demain, si on fait des erreurs là-dessus, on fout tout par terre, quoi. Alors là, il ne faut pas se tromper, hein. Maintenant, Pendant mon temps, c'est qu'on a pris de très bonnes décisions. Alors, justement, pour en revenir sur le Bordelais qui avait l'expansion en ce moment, c'est bon, tout le monde. C'est que le Bordelais a à peu près 120 000 hectares, je crois. Nous, on en a 33 000, 35 000. Le chiffre d'affaires de la Champagne est quand même nettement supérieur au Bordelais. Avec de Froman Vignes. Hein, alors bon, la Champagne a en principe toujours eu su prendre des bonnes décisions, et bon, j'espère qu'à la suite, ils vont en prendre aussi à l'identique, quoi, parce que se retrouver avec des dizaines de milliers d'hectares en plus pour vendre le produit quelques euros la bouteille, travailler pour ça sert à, bon, enfin bon. Puis l'ennui, c'est que bon, la notoriété du champagne, en fin de compte, faut quand même être franc, c'est surtout l'image qu'elle a et qu'on doit conserver. Parce que ce qui est dans la bouteille, c'est bon, mais bon, je ne veux pas faire de. Mais pour le non-connaisseur, s'il n'a pas la question de dire, comment que c'est que je dirais, moi, se faire voir sur le plan social, pourquoi pas acheter une bouteille de mousseux qui, bon, gustativement, qui revient presque au même pour certaines, et pourquoi acheter une bouteille de champagne qui est le double. Mais et dans le monde entier, pourquoi, par exemple, on vient d'évoluer sur les sports? Et avec encore les marques de prestige, ben c'est l'évolution de la société des pays émergents qui fait que les gens, dès qu'ils montent en la classe sociale, ils achètent le champagne parce que ça augmente leur prestige de valorisation de leur classe sociale, quoi. Ben, ça, c'est inévitable. En fin de compte, quoi qu'on en dise, c'est vrai que le vin effervescent dans le monde augmente, mais en finalité, elle peut faire aussi augmenter, en cas d'économie florissante, la vente du champagne, parce que les gens, tant qu'on aura l'image de la Champagne par rapport à la hauteur, enfin, des gens, de la société, ça continuera à marcher. Hein, faut pas. Enfin, jusqu'à maintenant, ça a été comme ça. Ouais. Alors, Corniaud, il a de la famille, hein, ça s'écrit. Merde, faut que je demande à Nathalie, je ne sais plus exactement le. Alors, faudrait que je vérifie quand même, parce que le prénom, il semblait que c'était Aristide. Mais ça fait. Oui, c'est vrai que. Au départ, ce qu'il m'a dit, ça m'avait réconforté dans la façon dont il fallait que je progresse, quoi, enfin,
Et vous aviez cette vision d'aujourd'hui, quand vous avez commencé, qu'il y aurait un jour.
Alors, comment dirais-je? Oui. C'est presque venu dans l'enfance, dans le sens où, comme j'expliquais, c'est moi qui faisais les vignes, et donc il y avait une vigne où j'ai la mienne, juste l'autre côté de la route, en bas de la cabane, là, juste que tu avais planté, mais c'était planté en l'autre sens. Et donc, bah, je faisais ça tout seul. Puis quand on est, bah, avant le service militaire, même à comment, 17-18 ans, c'est souvent. Et donc, comment. Bah, j'étais. Je faisais mon boulot et puis bon, je prenais 10 minutes, un quart d'heure. Si c'était des fois lundi qu'on avait sorti un peu le dimanche et tout ça, je faisais la sieste et puis j'étais émerveillé de voir le paysage et tout ça. Et ça m'a toujours resté gravé. Donc j'étais comme. J'étais là, j'avais l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Bon, c'est un peu. un peu philosophique. Et puis bah, quand on a eu la chance de justement de pouvoir mettre à planter et que j'ai vu qu'il y avait des terres là. Alors, avec mon père, j'ai dit, bon, on partage et tout ça. Mais je dis, moi, J'ai quand même travaillé dans ma ville. J'ai au moins une chose que je veux, c'est d'avoir les parcelles qui se trouvent ici. Leur dit, oh, pas de problème, hein. Je m'en fous. Ouais. Alors, c'est un petit peu ça de mon enfance qui est revenu, quoi. On n'aurait pas fait la vigne, on n'aurait pas fait la vigne. Hein, mais c'est un petit peu ça de comment qui m'a fait que. Puis en fin de compte, comment ma femme est très contente aussi parce qu'on a reconstruit de l'autre côté, elle ne voulait pas aller ailleurs. Et bon.
Et quand vous êtes séparés de vos frères, de la
Oui.
société, comment ça s'est passé? Ils ont trouvé ça naturel ou...
Bon, ça les embête un peu, quoi, parce que le problème, c'est que comment que c'est que je dirais, moi? Bon, bah, mes frères n'ont pas eu de certificat d'études parce qu'ils ont été moins virulents non plus. Et donc, c'est moi qui s'occupais de toute la question administrative, quoi. Alors là, c'était la question de. Bon, on travaillait ensemble et tout ça, mais c'était pas le. Ça fait 10 ans, ils étaient dans le bain, ils connaissaient. C'est pas ça qui dérangeait tellement, si tu veux. C'est la question de gérer, quoi. Comment on gérait ça ensemble, quoi. Là, ça les a plutôt gênés, mais bon. J'ai dit, moi je veux progresser, alors c'est ça. Alors, comme ils voulaient pas financer des constructions qui n'allaient pas se servir. Bah, c'est normal, hein, je dis nous. Et puis, comme j'ai dit avant, comptable dit, vous avez beaucoup plus intérêt à refaire votre installation sur le plan fiscal, sur, tout ça, c'est aussi bien, quoi. Alors.
Et pour vos fils, c'était naturel de reprendre ou la question s'est posée à un moment donné?
Alors, donc, j'ai une de mes deux filles, bah, elle n'est pas là, elle est en câble, elle travaille. Elle a fait l'école après son bac, l'école de viticulture, et puis ça l'intéressait de rester avec nous. Elle est plus elle est un peu timide et tout ça, elle était bien avec nous, quoi. Alors, mon autre fille qui est là, travailler dans le commercial et tout ça, c'est toujours. Alors, c'est la fille là qui s'occupe de la comptabilité, qui s'occupe de. Oh, pop, tous les deux aussi, mais de la clientèle, mais qui gère toutes les factures, tous les dossiers, tous les problèmes. S'occupe même de mes trucs personnels, comme c'est là. Tout passe ici, parce que ma femme ne voulait plus être trop embêtée. On a un téléphone qui est sur. Carte machin rouge, là, enfin bon. Et donc c'est la fille là, elle démêle tous les petits soucis ou tous les petits problèmes qu'on a là, et tout se passe bien, quoi.
Et ça,
Mais
c'est plutôt bien. Enfin, pour vous,
ah
c'est
oui.
rassurant.
Ouais. Non, puis bon, on a deux petits-enfants. La fille qui est là, elle a un garçon là, qui a 14 ans, et puis mon autre fille là, qui est en cave, elle a une fille qui a 14 ans aussi, ils sont nés la même année. Bon, ben, j'espère qu'il y en aura au moins un des deux qui reprendra la suite. Bon, après, ils feront ce qu'ils voudront. Mais... Et donc là, ben, avec les deux filles, il n'y a pas de problème, quoi. Tout se passe bien.
D'accord. Ben, je vous remercie.